Jean-Marc Carte, qu'est-ce que vous retenez de la politique africaine de Jacques Chirac pendant ses deux mandats présidentiels?
Parce qu'on peut reconnaître à Jacques Chirac, c'est sans doute un réel intérêt pour l'Afrique. Maintenant, il y a d'une part la face publique, hein, que Jacques Chirac, qui se présente comme l'ami de l'Afrique, non d'ailleurs sans un certain paternalisme, ou Jacques Chirac qui plaide pour l'augmentation de l'aide des pays riches en faveur de l'Afrique. Y compris d'ailleurs, on peut lui reconnaître sa plaidoirie en faveur de mécanismes innovants pour financer le développement, comme des taxes. Mais derrière cette face publique, ça en cache une autre, beaucoup plus obscure, et dans l'ensemble, le bilan reste sombre, au point que François-Xavier Verchave a pu consacrer un ouvrage qu'il a intitulé « Noir Chirac » pour désigner la politique africaine menée par l'ancien président. Parce qu'en réalité, bon, Jacques Chirac, il faut se souvenir qu'il a fait toute son éducation politique auprès de Jacques Foccart. Hein, Jacques Foccart, le père de la France-Afrique, le bras droit de Gaulle. Jacques Chirac l'a appelé auprès de lui quand il est parvenu à l'Élysée. Et pratiquement, il lui parlait tous les jours. Alors de cet héritage, Jacques Chirac, il a conservé une vision de l'Afrique marquée finalement par la défense d'un pré carré de la France en Afrique, où Paris protège ce qui lui reste d'influence géopolitique, et surtout, la France sécurise son approvisionnement, à la fois en énergie et en minerais.
Comment sont définies les priorités de Jacques Chirac en Afrique ?
À cette époque-là, la politique africaine de la France, elle est définie dans un triangle, hein, entre ELF, l'état-major, l'armée, et puis l'Élysée. Alors, dans cette vision, finalement, il importe peu que les dirigeants avec lesquels on a affaire en Afrique soient ou non des démocrates, pourvu qu'ils servent les intérêts de la France. C'est quand même ça le fond de la vision chiracienne de l'Afrique. Et d'ailleurs, on se souvient quand même que quand il était Premier ministre, en 1986, Jacques Chirac disait que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Tout comme Mitterrand, il a soutenu sans vergogne des dirigeants peu recommandables, à la fois des tyrans, comme Eyadema au Togo, ou Idriss Déby au Tchad, ou encore le maréchal Mobutu au Zaïre. Il faut se souvenir qu'en 1996, Jacques Chirac a été jusqu'à envoyer des mercenaires pour tenter de sauver le maréchal de la débâcle. Alors, il a aussi soutenu le retour à la présidence de Denis Sassou Nguesso à l'issue d'une guerre extrêmement meurtrière, largement financée par des acteurs économiques français, dont ELF. Et puis, on se souvient aussi des amitiés de Jacques Chirac avec Ben Ali en Tunisie, avec Omar Bongo au Gabon, parmi tant d'autres.
Ces amitiés, comment se traduisaient-elles ?
Un certain nombre de ces dirigeants, ils seront renvoyés à l'ascenseur de ce soutien français en finançant les campagnes de Jacques Chirac et puis aussi d'autres responsables politiques français. C'est aujourd'hui largement documenté. Les financements d'Omar Bongo en faveur de Jacques Chirac et ensuite en faveur de Dominique de Villepin et de Nicolas Sarkozy ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Il y a un certain nombre de témoignages concordants en ce sens. On sait aussi qu'il y a eu des financements ivoiriens et puis les rumeurs sont insistantes concernant un certain nombre d'autres capitales africaines. D'ailleurs, un certain nombre de ces dirigeants se sont sentis tellement bien accueillis en France que sous le règne de Jacques Chirac, si l'on peut s'exprimer ainsi, ont investi assez massivement sur le sol français, un argent qu'ils avaient pour partie au moins amassé sur le dos de leur population. C'est ce qu'on peut aujourd'hui qualifier de bien mal acquis pour un certain nombre de ces dirigeants qui devront, espérons-le, en répondre devant la justice.
Vous parlez, Jean-Marc Carte, d'une politique de réseau pour qualifier la politique africaine de Jacques Chirac, ce qui n'est d'ailleurs pas nouveau.
Bon, cette politique occulte, elle s'appuie aussi sur une totale confiscation de la politique africaine entre les mains de l'Élysée. Finalement, le Parlement en France n'a pas son mot à dire sur la politique étrangère de la France en Afrique. Elle s'appuie au contraire sur des réseaux. C'est une politique pratiquement privatisée. Alors c'est l'âge d'or des réseaux encore sous Jacques Chirac, les réseaux Foccart, les réseaux Pasqua, qui reprennent du poil de la bête après les réseaux Mitterrand. C'est l'âge d'or des intermédiaires. On pense évidemment à Foccart, mais aussi à Patrick Maugin, à Robert Bourgi, des personnalités qui n'ont pas de mandat électif, mais qui interviennent pour faire du lien entre les chefs d'État. Et puis c'est aussi l'âge d'or des mercenaires, Paul Baril, par exemple, succédant à Bob Denard. Alors, si on doit regarder un peu rétrospectivement, c'est un peu avec tout cela que, à la fin du mandat de Jacques Chirac en 2007, on avait pu espérer tourner la page. Maintenant, ont-ils cette nouvelle génération de Nicolas Sarkozy puis François Hollande vraiment tourner la page du néocolonialisme, malheureusement, il est permis d'en douter.
Jean Mercart, merci.